Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons cette semaine, bien une fois de plus, retrouver Rachilde, alors, qui, je le rappelle, se nomme Marguerite Emery. Elle est née au Croc, commune de Château-l'Évêque. Son père, ancien militaire, veut la marier encore jeune, mais elle tentera de se noyer pour échapper à cette union. Bon caractère. Hein. Ses premiers écrits seront publiés dans l'Écho de la Dordogne de 1877 à 1881. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. Alors, majeure, Marguerite tente sa chance à Paris où elle s'installe, 5 rues des Écoles, alors c'est rive gauche de la Seine, et non loin du Panthéon. Alors, une petite parenthèse, l'âge de la majorité était fixé à 21 ans depuis 1907. Et c'est Giscard d'Estaing qui est rétabli à 18 ans en 1974. Après, on va dire à Rachid, est accompagné par sa mère dépressive qui sera internée à l'office de Charenton. Dans la capitale, elle rencontre son compatriote Émile Goudot et fréquentera un temps le club des hydropathes. Alors, parmi ses fréquentations, il y a Catulle Mendès, mais elle ne succombera pas à son charme. Et sous le nom de Rachilde, elle publiera deux livres, Monsieur de la Nouveauté et La femme du 199e régiment, qui n'auront, ben, ma foi, pas beaucoup de succès. Alors, son premier ouvrage remarqué sera Monsieur Vénus, imprimé en Belgique et considéré comme pornographique, et vaudra quelques ennuis à son éditeur, mais assurera une reconnaissance à son autrice. Ce roman, le plus connu de Rachilde, est publié en 1889 avec une préface assez longue de Maurice Barrès. Voici le début et la fin. Donc, moi, ce que j'ai, c'est Monsieur Vénus, de Rachilde, et c'est un roman qui est publié par Flammarion en 1977. Alors, voici ce que nous dit Maurice Barrès dans une préface intitulée « Complications d'amour ». Ce livre-ci est assez abominable, pourtant je ne puis dire qu'il me choque. Des gens très graves n'en furent pas scandalisés davantage, mais amusés, étonnés, intéressés, ils ont placé M. Vénus dans l'enfer de leur bibliothèque avec quelques livres du siècle dernier qui effraient le goût et font songer. M. Vénus décrit l'âme d'une jeune fille très singulière, je prie qu'on regarde cet ouvrage comme une anatomie. Ceux qui se piquent uniquement des nuances élégantes, de bien dire, n'ont que faire de feuilleter ici. Mais les livres où ils se plaisent auront peut-être disparu depuis longtemps, qu'on cherchera encore dans celui-ci l'émotion violente que donne toujours à des esprits curieux et réfléchis le spectacle d'une rare perversité. Ce qui est tout à fait délicat c'est dans la perversité de ce livre, c'est qu'il a été écrit par une jeune fille de 20 ans. Le merveilleux chef-d'œuvre, ce volume estampillé de Belgique, qui d'abord révolta l'opinion et ne fut lu que par un vilain public et quelques esprits très réfléchis. Toute cette frénésie tendre et méchante et ces formes d'amour qui sentent la mort dans l'œuvre d'une enfant, de l'enfant la plus douce et la plus retirée. Voilà qui est d'un charme extrême pour les véritables dandies. Ce vice savant éclatant dans le rêve d'une vierge, c'est un des problèmes les plus mystérieux que je sache. Mystérieux comme le crime, le génie ou la folie d'un enfant étonnant de tous les trois. Rachid naquit avec un cerveau en quelque sorte infâme. Infâme et coquet. Tous ceux qui aiment le rare l'examinent avec inquiétude. Jean Lorrain, qui devait s'y plaire, a donné d'un élégant croquis de sa visite chez Rachid. Je trouvais, dit-il, une pensionnaire d'allure sobre et réservée, très pâle, il est vrai, mais d'une pâleur de pensionnaire studieuse, une vraie jeune fille un peu mince, un peu frêle, aux mains inquiétantes de petitesse, au profil grave des fèves grecques ou de jeunes français amoureux, et des yeux, oh les yeux, longs, alourdis de cils invraisemblablement, et d'une clarté d'eau, des yeux qui ignorent tout à quoi que Rachilde ne voit pas avec ces yeux-là, mais qu'elle en a derrière la tête pour chercher à découvrir les piments engagés dont elle révèle ses œuvres. Voilà. Alors ça se termine ainsi, donc cette préface de Barrès, fantaisie pleureuse d'une isolée excentrique cérébrale, mais qui intéresse le psychologue, le moraliste et l'artiste. Monsieur Vénus est un symptôme très significatif, d'autant qu'on distinguera aisément, je le répète, ce qui est exagération de romancier et ce qui vient d'une énervation de plus en plus commune chez l'un et l'autre sexe. Non, ce n'est pas une polissonnerie que cette autobiographie de la plus étrange des jeunes femmes, en dépit des pages qui veulent, je crois, être sadiques et qui sont seulement très obscures et très naïves. Ce livre, à mon goût, peut être considéré comme une curiosité qui restera au même titre que certains livres du siècle dernier que nous lisons encore après que des ouvrages plus parfaits ont disparu. La critique moderne substitue volontiers à la curiosité littéraire la curiosité pathologique. C'est l'auteur que cherche dans une œuvre les esprits les plus distingués. Vous savez quelle jeune femme, toute de douceur et de finesse, est l'autel de cette frénésie sensuelle et mystique qu'on trouve dans son livre. Ne vous semble-t-il pas que M. Vénus, en plus des lueurs qu'il jette sur certaines dépravations amoureuses de ce temps, est un cas infiniment attaché pour ceux que préoccupent les rapports si difficiles à saisir et qui unissent l'œuvre, l'art au cerveau et qui la mise debout. Par quel mystère Achille l'a-t-elle adressé devant soi Raoul de Vénérand et Jacques Silver? Comment de cet enfant de saine éducation sont sorties ces créations équivoques? Le problème est passionnant. Un éminent psychologue, M. Jules Souris, qui s'intéresse méthodiquement aux curieuses variétés de la sensibilité humaine, disait un jour de Restif, qui compose de tels livres ne s'appartient peut-être pas plus qu'un monstre double. C'est un trop beau cas de tératologie. Tom et l'oubli ne sont que pour le vulgaire. Lui, il a les honneurs de la salle de dissection du musée Dupuytren. Voilà ce que j'appliquerai judicieusement aux camarades que j'ai l'honneur d'étudier et que je craignais de lui faire paraître un peu lourd. Et c'est signé Maurice Barrès. Alors, dans cet ouvrage, il y a le facsimilé d'une lettre également de Maurice Barrès, et qui est écrite en 1888, donc un an avant la parution du livre, et qui demande justement l'autorisation de cette préface. Voilà. Alors, voici l'essentiel de ce texte. Ah, ma chère Rachid, depuis que vous m'avez dit qu'aurait imprimé M. Vénus, savez-vous que j'ai une envie folle? Je voudrais vous donner 20 belles pages où j'expliquerai comment et en quoi ce livre est un chef-d'œuvre. Vous avez un grand public de lecteurs, mais de lecteurs. Il ne s'agit pas ici de préface qui ne conviendrait ni à vous ni à moi, mais d'une étude sous une forme de l'amour qu'on joindrait au volume. J'ai les chroniques et autres si cela vous convient. Amis et admirateurs, Maurice et ses signés, de 14 rue Chaptal, où il demeurait. Voilà. Excusez-moi, je reprends mon texte, voilà. Mais voici ce que nous dit la quatrième de couverture de ce roman sulfuré, donc Monsieur Vénus. Aujourd'hui, Monsieur Vénus n'a rien perdu de sa saveur et Raoul de Vénérand, l'héroïne, a conservé son charme diabolique. Elle ne connaît pas le vice, mais elle l'invente, dit un des personnages du roman. Raoul, en effet, est une sorte de mauvais ange. Cette jeune femme fière et noble porte en elle le regret de n'être pas un homme et croit pouvoir s'affranchir de tout préjugé. Ayant découvert l'amour, elle n'hésitera pas à modeler selon sa volonté le garçon qu'elle a choisi, qu'elle méprise en tant qu'homme, mais dont elle adore la beauté, faisant de lui son esclave, faisant de lui en réalité sa femme. Alors, M. Vénus est un roman fascinant par son atmosphère, par ses personnages, par l'analyse d'une certaine sensibilité amoureuse, par l'étude d'un cas curieux d'amour de soi, d'amour poussé jusqu'au délire, jusqu'à la folie. Voilà. Alors, vous pouvez toujours vous procurer M. Vénus. Je crois que c'est toujours réédité. Alors, pour moi, c'est le meilleur roman de Rachid. Et donc, celui dont je vous ai donné l'extrait est publié par Flammarion en 1977. Voilà. Donc, pour poursuivre ce que je disais, alors, Achille est excentrique, on l'a bien compris. Elle demande à la préfecture de police autorisation de s'habiller en homme, c'est-à-dire de mettre un pantalon. Autorisation accordée à l'époque, mais les femmes étaient en robe et non pas en pantalon. Alors, autorisation accordée, elle se coupera en plus les cheveux et fera imprimer des cartes de visite intitulées « Rachilde, homme de lettres ». En 1889, elle reprend un costume féminin et épouse civilement Fernand Valette, au grand dam de Léon Blois, qui leur demandera de concrétiser leur union à l'église, ce qu'ils ne feront pas. En 1890 sera la venue au monde de leur fille Gabrielle et la refonte du Mercure de France, revue qui sera rachetée en 1958 par Gallimard et disparaîtra en 1965 face à la nouvelle revue française. Au Mercure, Rachilde tiendra tous les mardis, salon littéraire, où se rencontreront entre autres, Jules Renard, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Stéphane Mallarmé, Francis Carco, Oscar Wilde, Alfred Jarry, et Alfred Jarry, évidemment, dont on reparlera la semaine prochaine. Outre le salon littéraire, dans la ville de Paris, à perpétuer le souvenir par une plaque commémorative près du théâtre de l'Odéon, dans le Mercure, notre Périgourdine tient une chronique littéraire baptisée, comme je le disais, Revue de la Quinzaine. Et donc, il y a dans un livre intitulé Rachilde, homme de lettres, hein, d'André David, et donc Rachilde, homme de lettres, son œuvre, portée et autographe, document pour l'histoire de la littérature française, et ça date de 1924. Et il y a également dans ce livre des poèmes qui sont dédiés à Rachid. Alors, en voici un, d'Albert Samain. Le péché de la chair foisonne, rose adorable ou saugrenue, dans la braise, diable ingénu, à petits coups, elle tisonne. Cravache au poing, folle amazone, elle chevauche l'inconnu et son esprit bondu, tout nu, sans chemise qui l'emprisonne. L'amour, ce brutal extorque, cœur, vous prendrez tout, même le cœur, vite, un coup d'éventail moqueur, et ses dents fines de marquise, croque sans fin, pratique, esquisse à volupté d'être incomprise. Voilà. Alors bien sûr, il y a d'autres poèmes, comme je disais, il y en a un signé de Roland Taillade et Victor Marguerite, qu'on retrouve un peu là. Alors, vers donc pour Mademoiselle Rachilde. Sous les terres bleues fleurissent des pervenches turquoises et la pie orientale, où du printemps s'exaltent les revanches près des ruisseaux au bleuâtre cristal. Il y a encore des étoffes de Perse, où dans les bleus et les roses mourants dorment des ciels de vagues couleurs perses, éclaboussés de soleil fulgurant. Dans les étangs où rubanent les herbes, chante le cœur féerique des Willy. Les nymphéas mêlent parmi leurs gerbes des corps de femmes à la candeur des lys, mais dans vos yeux éclosent pêle-mêle les cieux lointains et les fleurs d'ici-bas, et nostalgique en cette mer jumelle, toute la mer déroule ses combats. Alors donc c'est un poème dédié à Rachilde, signé Roland Taillade et Victor Marguerite. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Barrès, Monsieur Rode et Dumur tiennent des discours pessimistes, verjus de leur prix semblent mûrs. Lisez Barrès, Rode et Dumur, ils savent que le chien est dur et que peu de tigresses. Les modistes, Barrès, Monsieur Rode et Dumur tiennent des discours pessimistes. Voilà, alors, on va continuer un tout petit peu. Il y a un autre qui est... qui s'intitule d'Albert Samain, je crois qu'on l'a déjà dit, et on va aller à un poème qui s'intitule « Hymne » à Mademoiselle Rachilde, bien évidemment. « Tu nous prends l'égal des héros et des dieux, et nous procurant d'être les seuls, d'endifs et de nos orgueils, des sommets radieux, non plus tel foyer de troubles incendies, tu brilles et lui, vif astre au rayon doux, sur l'horizon noir d'une lourde tristesse, par toi surtout nous plaisons, ô Dieu jaloux, choisis une fleur et du bien délicatesse, plus fière fierté, plus pudique pudeur, qui ne sait rougir à force d'être fière, qui ne peut que vaincre la sereine ardeur, vierge ayant tout su, très paisible guerrière, musique pour l'âme et parfum pour l'esprit, Verju qui n'est qu'un nom, mais le nom d'un ange, noble dame guidant au ciel, qui sourit notre immense effort parmi cette fange. Voilà. Et donc, écoutez, ça sera le dernier poème pour cette semaine. Et bien écoutez, cette semaine qui débute, je vous la souhaite bonne et pas trop fraîche. Voilà, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.